bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 15. La thématique, c'est la fin du travail. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On va donc s'intéresser à cette thématique. On parle régulièrement de la fin du travail, que ce soit aujourd'hui en raison de l'ubérisation ou d'avancées technologiques qu'on nomme régulièrement, ou dans le passé, c'est un sujet qui est revenu de manière récurrente. On va essayer de voir quelle est la position des libéraux sur le sujet, et en général, qu'est-ce que sont les arguments des libéraux quand on évoque le mythe ou la réalité de la fin du travail?
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
La fin du travail, c'est une idée qui est vieille comme le monde. On peut commencer par dire que le travail a une place essentielle dans nos vies. C'est une base de la vie en commun. C'est la source souvent principale des revenus des ménages. Il autorise un certain nombre de choses, que ce soit en termes de consommation, de pouvoir d'achat, ou de pouvoir se permettre différentes choses qui sont nécessaires dans la vie des êtres humains. C'est également la principale façon de s'insérer dans la vie en commun, dans la vie sociale, et ça structure les catégories professionnelles et les pratiques entre collectifs. C'est aussi une thématique qui est très politique, elle fait l'objet de nombreux débats, c'est une thématique qui impacte nécessairement nos quotidiens. Et vu que c'est un point important de nos sociétés, c'est aussi une thématique qui est souvent confrontée à l'existence d'une fin du travail. Donc c'est souvent thématisé, ça a été fait dans le passé et ça revient aujourd'hui en lien avec des innovations technologiques. Et certaines personnes jugent qu'avec l'avancée notamment par exemple des robots ou de l'intelligence artificielle, on va être amené à arriver à la fin du travail, à une substitution du travail dans ce qu'il est actuellement par d'autres choses. Ces réflexions ne sont pas des choses nouvelles, on va le voir par la suite, que tout au long de l'histoire des époques industrielles, c'est des points qui reviennent.
Alors cette peur de fin du travail, c'est pas quelque chose de nouveau qui est contemporain de nos problèmes actuels, mais ça remonte à il y a bien longtemps, dès la révolution industrielle au XVIIIe siècle, où les gens, les différents groupes sociaux, certains groupes sociaux se sont inquiétés de voir la fin du travail. Avec les premières révolutions technologiques, les révolutions agricoles, certains mouvements craignaient déjà la fin du travail et la fin de leur métier. Donc il y a eu deux grandes révoltes en Europe. Donc la premièrement, c'est la révolte des ludites, comme on appelait ça en Angleterre. Les employés, les travailleurs dans le secteur du textile se sont inquiétés de la révolution technologique avec les machines qui permettaient d'être beaucoup plus productifs, de produire beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Il y a eu un grand mouvement d'opposition à cette révolution technologique parce que les gens étaient contre ça et pensaient qu'ils allaient perdre leur travail. Et donc il y a eu une grosse violence, ils ont voulu détruire les machines, etc. Deuxièmement, en France, les canuts, en France, c'est la même chose, où avec cette idée que la machine allait voler son travail et qu'on allait se retrouver sans rien. Donc il fallait lutter contre ces mouvements, contre ces progrès technologiques, en utilisant des fois, parfois, et même souvent dans cette question-là, la violence, détruisant les machines ou faisant un petit peu des mini-révoltes. Donc ça, c'est deux exemples historiques qui ont été ensuite contrés par les faits, parce que ces révolutions technologiques, comme on le sait bien, n'ont pas du tout mis fin au travail, bien au contraire, ça a ouvert d'autres perspectives. La productivité, les machines ont permis d'avoir une autre perspective, d'être beaucoup plus productif, de produire mieux et de meilleure qualité. Et les emplois n'ont pas disparu. Alors, ils ont évidemment disparu dans ce secteur d'activité, mais d'autres emplois ont été construits, ont été créés dans d'autres secteurs d'activité. Plus tard, cette préoccupation était également à l'ordre du jour, donc avec même au sein des grands économistes comme Keynes, qui a réfléchi beaucoup au problème du chômage technologique. Keynes qui craignait des situations de chômage technologique où les gens se retrouvaient sans emploi grâce ou plutôt à cause dans cette question-là du développement technologique, qui n'allait pas détruire les emplois en soi, mais que la transition entre les anciens emplois et les nouveaux emplois qui seraient créés découlant de la révolution industrielle ou du changement technologique, il y aurait un laps de temps trop grand qu'il fallait compenser. Et donc on avait cette idée quand même qu'à un certain moment, les gens allaient se retrouver sans travail et que c'était souvent à l'État de compenser ça. Et finalement, dans cette question de mythe de la fin du travail, donc plus proche de nous, au début du XXIe siècle, Jérémy Rifkin, qui est le grand gourou de la Silicon Valley, qui a beaucoup travaillé dans ces questions-là de développement technologique dans le cadre de ce qui s'est passé dans la Silicon Valley aux États-Unis avec Google et ce genre de choses, qui s'alarmait dans un livre à succès de la fin du travail. Et selon lui, on allait arriver dans une société où la technologie allait remplacer à 100% le travail. Et donc on allait se retrouver dans une société où les gens n'auraient plus de travail, ne pourraient plus travailler, évidemment. Et ensuite, il proposait certaines compensations. Mais son idée principale, c'est de prophétiser un monde sans travail. C'est un petit peu au fur et à mesure de l'histoire, on peut se rendre compte que c'est une préoccupation qui s'est vu et s'est entendu relativement régulièrement. Mais ensuite, avec le recul de plusieurs dizaines, voire centaines d'années, on peut se rendre compte, et on s'est rendu compte très factuellement, que cette crainte ne s'était pas matérialisée, parce que les pays qui avaient expérimenté ces révolutions technologiques, ces révolutions industrielles, étaient des pays qui s'en sortaient mieux du point de vue, même du point de vue du bien-être de la population. Le travail n'a pas disparu, il s'est simplement déplacé dans d'autres secteurs. Ces pays avaient beaucoup plus de productivité, ils produisaient beaucoup mieux, beaucoup plus. Donc ça permettait aux sociétés d'être plus prospères, basées sur l'innovation, le progrès et l'augmentation de la productivité. Et aujourd'hui, on voit bien que malgré toutes ces révolutions technologiques, il n'y a pas plus de chômage qu'à l'époque. Donc en moyenne, il y a plus d'habitants sur Terre, mais le chômage n'a pas évolué en conséquence. Ou actuellement, quand on en discutera aussi dans ce podcast, mais cette question de l'intelligence artificielle et des robots, cette crainte que les robots remplaceront les emplois, on voit que les pays les plus robotisés, comme par exemple la Corée du Sud, c'est un pays aussi qui bénéficie du plein emploi en comparaison avec d'autres pays en Europe ou même dans d'autres régions du monde qui ont beaucoup plus de chômage. Donc il n'y a clairement pas une corrélation entre révolution technologique et chômage, voire le contraire. Donc historiquement, cette crainte n'a pas été et ne peut pas se justifier.
On a donc pu voir que dans l'histoire, la destruction ou la disparition du travail ne se confirmait pas dans les faits. C'est intéressant d'essayer de comprendre et de voir pourquoi est-ce que c'est le cas et quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre. Une des théories qui s'applique, c'est la destruction créatrice de Schumpeter. C'est l'idée que le travail, des pratiques peuvent disparaître pour laisser place à de nouvelles approches. Donc c'est l'idée que le nouveau ne naît pas de l'ancien, mais à côté de l'ancien, donc l'aspect de l'innovation. Et c'est clair que sur le court terme, une innovation peut détruire tout un nombre d'emplois, mais ça va créer de nouvelles opportunités qui, sur le long terme, vont permettre à des gens de quitter un secteur pour rejoindre l'autre, ou pour faire différemment un travail. Un exemple concret de destruction créatrice, c'est par exemple l'arrivée de l'imprimerie de masse. Avant, les gens devaient recopier à la main le contenu d'un livre, donc c'était réservé à une élite qui avait le temps et l'argent de se permettre de s'acheter un livre qui prenait du coup énormément d'heures à être fait par quelques personnes qui maîtrisaient cet art. Et le passage à l'imprimerie de masse, a donc évidemment posé un problème direct aux personnes qui dans le passé devaient faire des copies à la main parce qu'elles étaient remplacées par une machine qui le faisait plus rapidement, en plus grand nombre. Et donc pour le très court terme, eux ils étaient dans une difficulté, mais en même temps cette destruction créatrice, cette création d'un monde nouveau à côté de l'ancien, a permis un plus grand accès au savoir, a permis une distribution d'histoires, de théories et surtout de contenus intellectuels. Donc, c'est-à-dire que non seulement ça a créé des nouveaux emplois qui étaient du coup différents, avec des besoins de compétences différents, que ce soit pour trouver le bon papier, pour trouver de l'encre, pour maîtriser tout ça, pour mettre ça en place, et ça a permis en même temps, grâce à cette évolution technologique, à plus de monde d'avoir accès au savoir. Donc sur le très court terme, on aurait pu dire non, il faut interdire ces machines parce que certaines personnes vont perdre leur travail et que de manière claire, on pouvait identifier les perdants, mais on ne voyait pas directement les gagnants. Les gagnants, on les a vus sur le long terme quand on a vu que le fait de propager du savoir permettait notamment à la population d'être plus intelligente face à des dirigeants et donc de leur dire que ce qu'ils racontaient était faux et de développer des idées qui étaient contraire à ce que voulait par exemple une collectivité ou une autorité et qui dans le passé était imposée parce que très peu de personnes avaient accès au savoir et pouvaient le contester.
Et à côté de cette destruction créatrice qui est vraiment le mécanisme qui montre que le travail est vraiment un processus dynamique, qui est toujours en mouvement. Il y a cette théorie du déversement qui explique que la productivité, l'innovation qu'on peut avoir dans un secteur d'activité, dans un corps de métier, va permettre d'augmenter les salaires ou d'augmenter la richesse créée dans ce même secteur d'activité grâce à cette innovation technologique. Et ensuite, ça va créer plus d'argent, ça va créer plus de possibilités qui va se déverser, entre guillemets, dans d'autres secteurs d'activité, quelque part d'autres, en générant des nouveaux emplois. Donc, c'est par exemple, l'emploi agricole qui, on va voir des innovations technologiques qui vont bouleverser la manière d'aborder le travail agricole. Ça va permettre, ça va effectivement remplacer certaines personnes du secteur agricole parce qu'on aura besoin de moins de monde, étant donné qu'on aura des machines pour labourer, par exemple. Mais ces personnes-là vont se déverser, en tout cas ces emplois-là vont se déverser dans le secteur secondaire où on va avoir besoin de plus de choses parce qu'il y aura d'autres demandes et d'autres offres d'emploi grâce à cette innovation technologique. Et même chose, les innovations dans le secteur secondaire, donc dans l'industrie, va permettre de déverser aussi les emplois et la création d'emplois dans le secteur tertiaire. Et on voit qu'historiquement, on est passé d'une société qui était basée principalement sur l'agriculture, donc dans le secteur primaire, où il y a une transition, un déversement dans le secteur secondaire avec les sociétés industrielles d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, où on a vu des innovations technologiques et les métiers sont passés dans le secteur tertiaire qui est le secteur des services, donc les assurances, les banques, tout ce qui est le travail de bureau pour caricaturer. Donc le travail n'est pas détruit au niveau global, il disparaît d'une certaine manière dans un secteur, mais il est transféré, il est déversé dans un autre secteur, et qu'au final, on a une augmentation du travail, le travail ne finit, ne se détruit jamais ou ne disparaît jamais.
Historiquement, la vision du travail ou son utilité ou sa description ou sa perception dans une société a pu évoluer. Dans un premier temps, elle était perçue comme une sorte de punition ou une faute qu'il fallait se faire pardonner. On l'a, par exemple, chez les Grecs, il était comparé à la peine qui est infligée à un esclave. Et puis le travail manuel, le travail de terrain, on va dire, le travail ingrat, était réservé aux esclaves, pendant que les intellectuels faisaient le travail, donc les gens qui étaient établis faisaient le travail de recherche, de réflexion. Et cette vision de pénitence a poursuivi dans le temps. Pour la religion, c'était aussi l'idée que le travail menait à la rédemption finale et que c'était une manière d'arriver à des choses positives. Donc c'était structurant pour toute une vie, c'était un cadre qui pouvait être pénible, mais ça en valait la peine parce que la récompense était au bout. Pour les réformés, dans l'idée qu'on n'a pas une énorme influence sur son propre destin, le travail est vu comme une chose sérieuse qu'il faut respecter, avoir un cadre de vie établi, être prévoyant, donc pas dépenser son argent n'importe comment, être une personne raisonnable, bien faire son travail pour respecter ses prochains et avoir son rôle dans la société.
Le travail est aussi une composante essentielle des sociétés libérales et représente quelque chose de très important pour les libéraux. Depuis le XVIIe siècle, depuis Locke, qui considère le travail comme la base du droit de propriété. Et on sait à partir du XVIIe siècle ce que représente le droit de propriété pour les libéraux, le droit de propriété, le droit de la propriété de son travail, de son propre corps, et qui est quand même une base, un droit fondamental dont la plupart des constitutions libérales à travers le monde et sur laquelle se sont quand même basées la plupart de nos sociétés occidentales aujourd'hui, le respect du droit de propriété. Et selon Locke, le travail, il est logiquement au fondement de ce droit de propriété. Tout ce qu'on possède n'existerait pas sans le travail de cette terre. Donc c'est vraiment le travail, le fait d'avoir travaillé, le fait d'avoir passé des heures à faire quelque chose qui donne, on va dire, le droit moral de posséder quelque chose. C'est vraiment cette idée d'avoir le droit de posséder son propre corps et par extension, ce qui en sort du travail qu'on a fait avec son propre corps. Donc tout ce raisonnement à partir du droit de propriété, à partir du travail, on a fait vraiment un fondement essentiel des sociétés libérales et pour les libéraux comme quelque chose de vraiment important, surtout sous le prisme du droit de propriété.
Se pose donc désormais la question de l'importance du travail dans une société libre. Travailler ou avoir son travail, c'est une manière pour les libéraux, en tout cas c'est comme ça qu'on le voit, de s'émanciper du collectif, d'être finalement le maître de sa vie, de pouvoir subvenir à ses propres besoins, d'assumer ses propres désirs et de se payer ses loisirs, sa manière de vivre, et donc de cesser d'être dépendant, que ce soit financièrement du reste du groupe ou de manière indirecte par une pression qui dépendrait de pouvoir manger grâce à autrui, que autrui possède des choses dont vous avez besoin pour vivre. Donc le travail permet tout ça, il permet aussi de sortir de votre condition sociale. Donc si vous avez grandi dans un milieu, le travail peut vous faire évoluer, vous faire sortir. En général, les libéraux s'engagent toujours pour l'égalité devant la loi, donc c'est-à-dire que face à la loi, dans la normalité, personne n'a de privilèges qui sont indus. C'est-à-dire que dans une société libérale, où chacun est égal face à la loi, a les mêmes chances, et où il n'y a pas de privilèges qui sont donnés par la loi de manière indue, c'est-à-dire que chaque personne qui s'en sort mieux, qui a une stature sociale ou qui a un métier où il a une plus grande reconnaissance sociale, le mérite complètement, parce qu'il n'y a pas d'avantage par la loi qui fait que cette personne-là est avantagée. Ça veut simplement dire qu'elle fait les choses mieux que le reste de la population, qu'elle le fait de manière plus efficace, qu'elle répond à un besoin de manière plus pertinente que le reste de la population. Donc, c'est-à-dire que dans un monde comme le souhaiteraient les libéraux, donc dans une société libre, le travail permet aussi d'exprimer face aux autres des capacités qui sont supérieures. Donc, c'est-à-dire que ça permet aussi une sorte de justice réelle pour les gens qui s'engagent et qui se donnent la peine et qui ont la volonté de faire du travail de qualité. Dans ce cadre-là, les personnes qui souhaitent un monde sans travail ou qui appellent de leur vœu un monde où la valeur centrale n'est plus le travail souhaitent donc un monde où les gens sont beaucoup plus dépendants les uns des autres. Et dans un monde de dépendance et où votre mérite ou votre subsistance personnelle ne dépend plus de votre volonté ou de vos mérites, vous êtes dépendant de règles qui sont arbitraires, qui dépendent des gens qui ont le pouvoir ou qui décident au nom du reste du collectif. Et ça met donc en danger l'individu qui, en tant que tel, n'est plus maître de son propre destin et est dépendant du collectif.
Et finalement, le travail, c'est quelque chose de positif en soi, parce que ça permet d'une part à l'individu de s'émanciper du groupe et de pouvoir vivre par soi-même, mais également de s'accomplir en tant que personne, en tant qu'individu et aussi du point de vue de la société. De représenter quelque chose et d'avoir l'impression qu'on peut apporter vraiment quelque chose à la société par le produit de notre travail, que ce soit un travail manuel ou intellectuel, où on a l'impression d'avoir de participer à la construction du monde, à la technologie ou à l'avancée du monde. Et c'est pour ça que quand on regarde par exemple les sondages qui posent des questions sur comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes heureux, on voit que le fait d'être au chômage, c'est pas simplement le fait de recevoir moins de revenus, c'est aussi c'est aussi de ne pas travailler qui rend les gens malheureux, même si leur revenu peut-être est très similaire à celui qu'ils avaient quand ils travaillaient. Mais le fait de perdre leur travail, c'est bien plus que simplement du revenu. C'est vraiment la question du statut social ou du rôle que cette personne pourrait avoir dans la société. Donc c'est aussi cette vie qui est construite autour du travail, ce contrat, ce statut social qu'on peut avoir en tant que individu. C'est quelque chose aussi qui valorise et qui donne une valeur au travail qui va au-delà de simplement l'aspect matériel, mais cet aspect symbolique qu'il ne faut pas minimiser ou sous-estimer dans ce cadre-là, qui fait qu'une société qui se base quand même sur le travail permet aux gens de s'accomplir aussi en tant qu'individu. Alors jusqu'à maintenant, on a un petit peu étudié en rétrospective l'effet de l'évolution technologique sur le travail. On s'est rendu compte que ça n'avait pas eu lieu, qu'il y avait la destruction créatrice et l'effet de la théorie du déversement pour montrer que, en effet, le travail avait continué à exister et il s'était même diversifier et on va dire augmenter en termes de qualité et de productivité, en tout cas dans nos sociétés occidentales. Mais il s'agit quand même de se reposer la question et de revoir cette analyse actuellement, alors qu'on fait face ou qu'on est déjà en pleine révolution technologique avec le numérique et ce qui nous vient, l'intelligence artificielle et tout ce qui arrive et qui fait peur ou qui amène cette question-là de la fin du travail, de la possibilité que les personnes, que le travail des individus soit remplacé simplement par des machines ou par des robots. Est-ce que cette destruction créatrice, est-ce que la théorie du déversement pourrait toujours fonctionner dans un monde qui bouge de plus en plus, dans un monde du travail avec des mutations qui va de plus en plus vite? Est-ce que les individus, est-ce que les êtres humains peuvent toujours s'adapter, pourront toujours retrouver du travail? Parce que la question, c'est si on a une destruction créatrice, c'est-à-dire que des emplois se détruisent d'une partie et se créent de l'autre, est-ce que les personnes qui auront accès aux nouveaux emplois, ce seront toujours les mêmes du point de vue social? Et certains auteurs, notamment l'historien à succès Yuval Harari, qui craint qu'on arrive dans une société où on ait une classe sociale d'inutiles, qui n'aurait plus de place dans une nouvelle société de la connaissance basée sur l'intelligence artificielle, où on aurait besoin des gens qui sont très très qualifiés pour travailler dans certains domaines. On aurait encore besoin de certaines personnes qui travaillent, on va dire, qui sont pas du tout qualifiées. Mais ces personnes un petit peu au milieu, cette sorte de classe moyenne, se retrouver dans une classe entre guillemets d'inutile, comme ils l'appellent, et ils voient ça comme une sorte de conséquences inéluctables du développement technologique contre laquelle il faudrait se battre. Donc l'intelligence artificielle, d'une part, elle peut amener beaucoup de positifs pour notre société, d'augmentation de productivité, des révolutions technologiques qui pourront améliorer la société, mais certains auteurs s'inquiètent un petit peu des effets secondaires sur la société. Donc maintenant, on peut pas prévoir ce qui va arriver, parce que c'est toujours facile de parler en rétrospective. Mais la question est vraiment de savoir de quelle nature sera ces nouveaux jobs, ces nouveaux métiers qui vont se développer. Est-ce qu'ils seront attractifs? Quelle partie de la société, quelle classe sociale pourra en bénéficier? Est-ce que tout le monde, de manière égale, pourra avoir d'autres opportunités? Est-ce que le rythme du changement, la rapidité sera trop élevée? On parle beaucoup de formation continue, de faire que les gens puissent aient différents emplois dans leur vie. Mais est-ce que les êtres humains vont être capables de se reconvertir plusieurs fois dans leur carrière, 5, 6, 7 fois peut-être? Est-ce qu'il y aura cette possibilité-là? Donc, c'est vraiment une question à se poser, que certains auteurs, que ce soit des auteurs libéraux ou un peu moins libéraux, se posent sur l'avenir du travail dans le domaine on va dire à l'aune de cette intelligence artificielle, et si les mécanismes qui ont vu le jour, qui ont été mis en place, qui ont été mis en œuvre relativement naturellement ces dernières décennies, ces dernières centaines d'années, auront toujours un effet avec la révolution qui arrive. Et donc les réponses ne sont pas encore claires.
On a donc pu voir qu'il existait un doute ou une crainte pour l'évolution future du travail. Mais avant de nous inquiéter du travail du futur, il faut peut-être se poser la question si aujourd'hui, il n'y a pas des réserves d'emploi ou des réserves de travail à libérer. Et la réponse est ici très clairement oui. Les réglementations étatiques ou les réglementations qu'on introduit de manière démocratique, majoritaire, peuvent parfois freiner l'apparition du travail, et certains travaux sont interdits, certaines pratiques sont interdites, certaines réglementations sont trop rigides et du coup empêchent l'expression des savoirs et des capacités de certains. De manière très concrète, l'absence de libre-échange avec certains pays du monde font que ceux-ci ne peuvent pas nous proposer leurs produits ou proposer des produits aux entreprises qui sont dans les pays avec lesquels ils n'ont pas de libre-échange. Cette absence d'échange fait que beaucoup de travail et beaucoup d'opportunités ne sont pas prises ou n'existent pas du coup dans ces pays, parce que l'échange crée non seulement une transaction mais aussi des gains de productivité. Avec des nouvelles machines, on peut créer plus facilement, plus rapidement, en plus grande quantité. Avec des nouvelles connaissances, on peut comparer des manières de produire et donc s'améliorer. etc., etc. Et un pays qui a plus de richesses peut aussi plus investir ensuite dans la formation, par exemple, ce qui fait que sur long terme, toute la société va en profiter, ou dans des meilleures infrastructures. Et tout ça crée à chaque fois de manière indirecte du travail. Une entreprise qui marche bien a aussi besoin de se nourrir, a aussi besoin de construire des maisons. Enfin, ses employés veulent construire des maisons pour ensuite bâtir des familles. Bâtir une famille, ça veut dire qu'on a besoin d'une école, on a besoin de routes pour se déplacer, etc., etc. Et donc, toutes les sociétés productives et qui sont prospères ont besoin d'infrastructures et de travaux qui font que ça entraîne plus de travail. Il y a aussi certaines règles du droit du travail qui freinent aujourd'hui l'apparition de places de travail supplémentaires. Typiquement, des freins très connus à l'international comme les 35 heures en France fait qu'une partie des énergies ou de l'intelligence collective n'est pas utilisée parce qu'elle est limitée dans le temps. En manière générale, un des points réellement néfastes dans les réglementations du travail, c'est les pays qui, de manière sans doute bien intentionnée, souhaitent par la loi protéger les emplois ou bétonner les emplois établis. Cette protection est fondée sur une idée totalement simpliste que si c'est interdit de licencier, le travail ne va jamais disparaître. Ou si c'est compliqué de licencier quelqu'un, ce job va continuer d'exister. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça empêche la destruction créatrice, donc c'est-à-dire, comme on l'a vu précédemment, que les innovations ne se font plus dans un pays, qui se sclérose, qui se ralentit, et qui du coup, sur long terme, va manquer des avancées technologiques, qui va être complètement concurrencé par des gens plus efficaces. Et sur le long terme, c'est-à-dire que le consommateur aura une offre de moindre qualité. Et de manière très concrète, quand on empêche des gens de licencier ou quand on rend très compliqué de se débarrasser d'un employé quand il ne correspond plus à ce qu'on souhaite faire avec son entreprise, indirectement, si c'est compliqué de se débarrasser de quelqu'un et que ce risque existe, ça va pas nous encourager à embaucher de nouvelles personnes parce que le risque est trop grand que ça se passe mal et on souhaite donc pas prendre cette expérience, ne pas se rajouter des problèmes entre guillemets et de rester avec le nombre de commandes qu'on a actuellement. Et au lieu d'étendre son entreprise, d'explorer des nouveaux marchés, d'accepter des nouvelles commandes, on ne le fait pas parce que ça serait trop compliqué et le risque serait trop grand de créer une nouvelle place de travail.
Encore une fois, quels sont les exemples de pays qui sont sortis de la technologie, qui ont renoncé au développement technologique, aux innovations, qui s'en sont sortis avec succès. Est-ce que la technologie, le progrès, l'innovation n'est pas la base d'une société qui est prospère tant du point de vue technique que économique, que social ou même humaine? Est-ce qu'une société qui déciderait de renoncer à l'innovation, de renoncer au progrès, serait dans une meilleure situation? Et en plus, si on doit renoncer à certaines innovations, qui devrait décider? C'est-à-dire que l'État devrait limiter, décider quelles sont les innovations qui valent la peine, lesquelles sont acceptables, lesquelles sont positives pour la société ou non positives. Et ça, comme on en a déjà discuté dans différents podcasts, c'est la porte ouverte à ce planisme un petit peu centralisé, c'est la porte ouverte à l'autoritarisme, à l'arbitraire, mais surtout on se rend compte, on sait que ce n'est pas possible qu'un État central ne peut pas commencer à décider en avance quelle est l'innovation qui va réussir, mais c'est plutôt des individus, des groupes de personnes, des organisations qui essayent, qui innovent. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, et c'est tous ces essais, tous ces faits de travailler ensemble, d'essayer d'innover qui fait qu'une société avance, qu'une société est prospère et se base sur le progrès. Donc vouloir sortir de l'histoire en revenant sur l'innovation technologique ou sur le progrès d'une société n'est ni positif du point de vue moral et idéal, mais en plus n'a jamais fonctionné, ne fonctionnera probablement jamais.
Voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories.
Alors, dans ce podcast, on a abordé la question de la fin du travail. On est un petit peu revenu dans l'histoire pour voir si, au fur et à mesure des évolutions technologiques, des révolutions, il y a eu ce problème de fin du travail. On s'est rendu compte que deux différents mécanismes, tant la destruction créatrice que la théorie du déversement, ont montré et ont permis justement que le travail ne disparaisse pas. En tout cas, s'il disparaît dans un certain secteur, il se crée et il apparaît dans un autre. Donc, du point de vue global, les innovations technologiques ont apporté du progrès, ont apporté une augmentation de la productivité, mais ça ne s'est pas fait au détriment du travail, au contraire. Ensuite, on s'est aussi posé la question, on a aussi réfléchi sur la valeur du travail en soi comme fondement d'une société libérale, comme une valeur morale qui est positive en soi, qu'il faut défendre. C'est pour ça qu'une société basée sur le travail est quelque chose de moralement désirable aussi du point de vue libéral et du point de vue des libertés, parce que ça permettait notamment de s'émanciper du groupe, de pouvoir vivre pour soi-même, d'être autonome. Et enfin, on s'est aussi posé la question des risques, en tout cas des défis que posait la prochaine révolution technologique qui est l'intelligence artificielle et la robotisation rampante, et comment l'État pourrait ou ne doit pas, qu'est-ce que l'État ne doit pas faire pour empêcher justement le travail, mais mettre en place des structures qui permettent au contraire de libérer et qui base une société sur le progrès, technique, les innovations et la liberté, des uns et des autres. Pour ce podcast, on aimerait recommander le livre de Nicolas Bouzou, « Le travail est l'avenir de l'homme », donc Nicolas Bouzou qui est économiste, et qui retrace de manière assez pédagogique et très intéressante comment et pourquoi le travail n'est pas amené à mourir et à disparaître, mais comment les différents mécanismes économiques ont montré avec que le travail a pu et pourra toujours survivre un petit peu au processus technologique, et pourquoi aussi le travail est quelque chose de positif. Donc c'est vraiment une lecture assez intéressante qui retrace différents éléments avec des exemples très concrets et avec une discussion aussi plus philosophique et abstraite. Donc on recommande vivement cette lecture. Pour ma part, je souhaiterais recommander le nouveau livre d'Olivier Babot qui s'appelle « Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités ». Dans ce livre-là, il se pose la question, il s'interroge sur les implications des nouvelles technologies et de tous les bouleversements, pas seulement sur la question du travail, mais sur la question de la démocratie et de la société en général. Il revient un petit peu sur les questions de polarisation dans la société et ce genre de défis auxquels on doit faire face en tant que société, qui sont aussi amenés grâce ou à cause des nouvelles technologies. Donc c'est une réflexion très intéressante et très actuelle.
Et moi, finalement, je conseille le livre de Schumpeter, comme on l'a abordé juste avant. Il s'appelle « Capitalisme, socialisme et démocratie ». Il revient notamment sur l'idée de la destruction créatrice et il explique les différentes oppositions qui existent entre le socialisme, le capitalisme et les structures internes de ces différents mouvements-là. Donc il ne parle pas seulement de la thématique du travail, mais aussi de tout ce que ça peut impliquer sur des systèmes qui sont en place. C'était Nicolas et Diego. Merci pour votre écoute et à une prochaine.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.